Chapitre 12. Lors du départ d'André, Fanny avait pensé à tout. « Oh, cette année, j'espère être plus heureux avec Bob et Taff !» déclara Jacques à M. de la Mérinière, qui s'était laissé retenir à dîner au château après une visite au chenil, car il était grand amateur de coursing. Il élevait aux environs pour son compte et celui des autres. À peu près ruiné, le beau vieillard, pour vivre correctement, était obligé de mettre dans le commerce ses petits talents. « Nous avons été battus l'an dernier par White Havana, à M. Gabriele D'Annunzio, n'est-ce pas, monsieur ?» demanda Fanny. « Tout l'honneur est pour lui, » répliqua la mérinière. « Vous ferez courir à Saint-Cloud ?»« Vous pouvez y compter, » répondit Jacques. « J'aime le champ de course de Saint-Cloud pour le coursing. Son sol, un peu gras et mou, est assez lourd pour les galops, mais ne risque pas de blesser les pattes des chiens. » « Je suis de l'avis de Slip. » Fanny écoutait Jacques s'exprimer avec cette aimable nonchalance qui était un de ses charmes mondains. Il semblait n'attacher d'importance à quoi que ce fût. Elle ne l'avait vu vraiment s'emballer que contre les audacieuses prétentions du papa Moutier expliquant sans sourire son système de l'autre monde. Et encore, parce qu'on avait mêlé à ces histoires-là, et d'une façon si bizarre, le nom d'André. Mais, dame, si Jacques avait assassiné son frère, hypothèse à laquelle elle ne parvenait décidément point à songer avec sang-froid. « Les lièvres, l'an dernier, disait M. de la Mérinière, se sont montrés d'une vigueur étonnante. » Pendant la seconde journée, ils ont fait des randonnées folles à travers les champs de course et plusieurs chiens se sont trouvés sur le flanc et forcés. « D'où viennent ces lièvres ?» interrogea Fanny, qui paraissait entièrement captivée par la conversation de M. de la Mérinière. « Mais de Bohême, madame, à ce qu'il paraît qu'en France, les lois interdisent les moyens de prendre les lièvres vivants. Auriez-vous cru cela ?» en vérité, pensait-elle, oui, mais si quelqu'un n'a pas une figure d'assassin, c'est bien mon cher Jacques. Oh, la belle, bonne et franche chevaleresque figure, aux clairs yeux bleus, qui regarde bien en face la chère aimée Fanny, et lui sourit parce qu'il la trouve tout à fait belle avec sa robe de charmeuse rose et sa couronne de rose dans les cheveux rouges. Cette histoire de Manchon, pense-t-elle, ou croit-elle penser dans l'instant, cette histoire de Manchon ne prouve rien du tout. Jacques a pu être averti du retour de ces Manchons et de leur dépôt chez les concierges. Il n'avait donc point, pour les prendre, besoin d'attendre l'ouverture du magasin. Quant à moi, qu'est-ce que j'ai cru voir? Un coin de la malle? Parce que j'avais vu cette malle à cette même place, et que j'ai pu l'y croire encore. Vous vous trompez, la bossière, le prix de Malgenet est réservé aux pupilles, faisait entendre M. de la Mérinière. Oh, parfaitement, approuva Fanny l'an dernier. C'est Fortress Will, papy anglais, qui a battu Plaisantin au Major Fontenoy. « Quelle mémoire, cher ami !» fit Jacques. Mais s'il m'a à ce point menti, si vraiment il a ramené la malle, et s'il a caché la malle, c'est qu'il savait déjà que son frère ne reviendrait plus jamais la lui demander. « Oui, monsieur, demain, si vous voulez, une tournée de ligne s'est entendue. » Mais en admettant qu'il se fût débarrassé d'André, la malle devait le gêner beaucoup, beaucoup, à moins qu'elle ne lui ait beaucoup servi, au contraire. Mais à cela, elle n'ose pas penser. Ce serait trop horrible, trop... Voyez-vous que Jacques eût ramené son frère dans la malle? Quelle chose! Chacun ne peut-elle s'empêcher de prononcer en se levant de table et en offrant son bras à monsieur de la Mérinière. Et quoi donc, madame, serait-ce chacun de nous laisser battre encore cette année, après tous les efforts que nous avons faits pour le coursing? Mais Bob et Taff sont dans d'excellentes conditions, je vous assure. Au salon, pendant une tasse de café à Jacques, elle se disait « Voilà, pauvre petite chérie, que j'ai cru assassin tout l'après-midi. Ce soir, je ne le crois plus, non. Comment va, darling ? Très bien, Fanny. Qu'avez-vous vu à Paris ? Oh, personne. Je suis passé rue de Rivoli pour une commission. J'ai vu Gordas et je suis revenu tout de suite. Vous n'êtes pas allé prendre le thé au Fritz ? Ma foi, non, mon cher. Et où avez-vous pris le thé ? Je n'ai pas pris de thé. Fanny, je ne vous reconnais plus. » Elle le quitta car elle se sentait rougir jusqu'à ses cheveux rouges. Est-ce qu'il se serait douté de son émotion? Non, certes, le petit chéri ne peut se douter de rien s'il est innocent. Et il l'est. C'est moi la coupable. Car enfin, comment cette idée de son mari assassin s'était-elle aussi vite et aussi nettement présentée à sa conception? C'est que, peut-être, cette idée était déjà là, tout au fond de l'adorable Fanny, non point l'idée précise que Jacques avait assassiné, mais qu'il aurait pu assassiner. Combien de morceaux de sucre? De telle sorte que le monstre, c'est moi. Elle ne fit aucune difficulté pour se l'avouer, en menaçant de la petite pince d'argent monsieur de la Mérinière qui voulait être servi par les jolis doigts de son hôtesse. Oui, c'était elle la coupable, du moment qu'elle l'avait si faussement cru capable d'une telle abominable action, lui si correcte. C'est qu'elle avait eu ça dans le tréfonds de son imagination depuis des années, depuis le premier jour peut-être. Mais à quoi donc avait-elle pensé ce fameux matin du départ, pendant l'absence de Jacques? Pourquoi avait-elle été si fébrile, si inquiète, et même si nerveusement rieuse? Évidemment, l'aubaine inespérée l'avait légèrement détraquée, mais néanmoins, il lui semblait bien à la réflexion que ce matin-là, elle avait pensé à tout. Elle n'avait pas manqué de faire remarquer à Jacques que les papiers d'André étaient extraordinairement en règle. Elle avait même ajouté « Tu ne trouves pas, petite chérie, que l'on dirait un testament ?» Que signifiait une telle phrase si elle ne voulait pas dire que tout était prêt pour qu'André disparût? Et si elle ne songeait pas déjà aux bienfaits qui résulterait pour eux d'une telle disparition? Se le nierait-elle plus longtemps elle-même? C'est elle qui était choking. Et elle mourrait certainement de honte si son excellent mari pouvait soupçonner une seconde l'infamie de cette misérable petite femme indigne du noble et charmant Jack. Tout de même, elle voudrait bien avoir la clé de la cave. Chapitre 13, la clé de la cave. Il est 3 heures du matin. Dans son grand lit, Fanny, qui ne peut dormir, songe à la clé de la cave qui, depuis ce jour-là, n'a jamais quitté son mari. Cette clé, une clé de grandeur moyenne, ouvrant une serrure assez compliquée pour que les domestiques, le chauffeur, ne puisse trop facilement pénétrer dans une cave honnêtement garnie, cette clé restait ordinairement à la maison, dans l'appartement de Héron. Mais le fameux jour, après être remonté de la cave, Jacques avait glissé la clé dans l'anneau de son trousseau. Après tout, ce geste était si simple. On allait déménager, s'installer au château. Jacques n'avait point voulu que cette clé s'égarât. C'était un homme nonchalant par genre dans le monde, mais très appliqué et de grande précaution dans le privé. La cave, située sous le garage, avait été mise entièrement à la disposition du ménage par André au moment de leur installation à Héron. Depuis qu'il vivait au château, elle ne le servait plus guère, et Fanny se rappelait même avoir conseillé à son mari, lors du déménagement, de faire transporter le vin qui s'y trouvait dans les caves de la roseraie, à quoi Jacques avait répondu qu'André pouvait revenir d'un moment à l'autre et qu'ils apparaîtraient un peu ridicules. Du reste, le vin vieillirait aussi bien en paix à Héron qu'à la roseraie. Et ainsi, les choses étaient restées en état. De temps en temps, deux ou trois fois par an, Jacques éprouvait soudain le besoin de goûter à certains crus de la Côte d'Or et revenait de Héron avec un panier de bouteilles dans la charrette anglaise. Mon Dieu, comment peut-on rester éveillé toute une nuit, la cervelle occupée par des détails aussi oiseux? Bon, voilà les histoires pour une clé de cave. Est-ce que les amateurs, les vrais amateurs, ne gardent point jalousement la clé du caveau où ils ont présidé avec tant de soin à l'arrangement de leur trésor liquide? Oui, mais est-ce que Jacques peut être compté parmi les vrais amateurs? Et après tout, cette clé n'est pas la seule qu'il ait gardée à son trousseau et qui ne lui serve plus. Ça l'amuse de remuer les clés dans sa poche en se promenant dans les ateliers. C'est un tic, une manie. 4 heures du matin. Fanny entend le petit timbre argentin de la pendule de boule au-dessus de la commode dans le boudoir. Est-ce qu'elle va entendre ainsi sonner toutes les heures? Eh bien, elle sera fraîche au moment de se lever. Et cela parce qu'en pensant à cet éternel panier de manchons et ronds, elle s'était fait tout à coup cette réflexion. Était-il naturel que Jacques, dans le bouleversement invraisemblable qu'amenait dans leur existence l'extraordinaire départ d'André, eût songé à cette besogne infime du contremaître aller prendre livraison quand tout le monde dort encore d'un panier de manchons refusé par la clientèle? Est-ce que les camions automobiles qui faisaient le service de Héron à Paris et vice-versa n'étaient pas là pour cela? Mais ce matin-là, lui, ne devait-il point n'avoir d'autre hâte que celle de venir la retrouver, elle? Mon Dieu, comme toutes ces déductions lui font mal à la tête. La demi de 4 heures. Autre grave et importante pensée, elle songe que, depuis leur départ, on n'use plus du garage particulier de Héron, du garage dans lequel débouche l'escalier de la cave. Jacques y a fait transporter des caisses pleines d'objets à eux, des meubles qui ne servent plus, de vieilles choses démodées qui encombraient certains coins de la roseraie. Ce n'est plus qu'un débarras dont, ma foi, nul autre que lui n'a ouvert la porte. Non, certainement, nul autre que lui. Deux ou trois fois l'an, quand il se rend à la cave pour revenir avec le papier du cru de Bourgogne dans la petite charrette anglaise. Et alors il rapporte avec lui la clé du garage qu'il a jetée une fois devant elle dans un tiroir de son bureau à la roseraie. Une clé énorme que l'on saurait avoir toujours dans sa poche, évidemment. Mon Dieu, que la pauvre Fanny a du mal, mal à la tête. Après les déductions viennent logiquement les inductions, les nécessaires inductions. Et tout cela fait un affreux micmac quand on veut s'endormir, et l'on ne peut pas s'endormir. Elle peut se créer ainsi dans sa petite tête monstrueuse tout un roman aussi invraisemblable que celui qui est sorti les hallucinations de Marthe. Ah, dormir, dormir, ne plus penser à ça. Voyons, est-ce que si Jacques avait ramené ce qu'elle pense dans la malle, et si la malle était vraiment dans la cave, est-ce qu'il retournerait là-bas? Mais il n'oserait plus y remettre les pieds. Mais il passerait devant cette porte le moins souvent possible. Mais il s'efforcerait de ne plus jamais penser à ce qu'il y a derrière cette porte. Et au contraire, il allait tranquillement chercher du vin fin quand rien ne l'y forçait deux ou trois fois l'an. Ainsi, 5 heures. Inouïe, elle aura passé sa nuit à caresser cette imagination abominable. Elle n'est pas digne de Jacques, non, non. Mais aussi elle a honte, en tout cas, de sa faiblesse. Le séjour en colonie où lui a été donné de voir martyriser d'une façon un peu excessive des domestiques indigènes qui avaient mal fait les commissions aurait dû l'habituer davantage à cette idée que la vie humaine, surtout la vie des autres, n'a qu'une valeur bien relative. Cependant, et cela devait la rassurer, si son Jacques, dans ce temps-là, a pu se montrer par raison et pour faire des exemples un peu cruels envers de misérables coulisses, il n'en est pas moins un gentleman qui, rentré dans la vie civilisée, est incapable, certainement, d'oublier l'importance d'une existence aussi considérable que celle d'un frère aîné, même quand cette existence est gênante. 6 heures. La châtelaine se lève, elle est hésitante. Dans la lueur rose de la veilleuse, elle se regarde passer timidement, si timidement, devant la grande psyché. Elle est vraiment charmante, Fanny, dans son déshabillé en mousseline de soie, brodée qu'elle vient de passer à la hâte et sans son bonichon de dentelle. Les fantômes qui se promènent cette nuit dans les couloirs du château de la Roseraie, ne ferait point fuir tout le monde. Celui-ci glisse avec une légèreté bien gracieuse sur ses mules de satin. Il traverse le boudoir, le cabinet de toilette, la salle de bain, ouvre tout doucement une porte, celle du cabinet de toilette de Jacques. À la première lueur de l'aurore, là, sur une étagère, la première chose que Fanny aperçoit à côté du porte-cigarette, du briquet et de la montre, c'est le trousseau de clés. Elle reconnaît la clé de la cave parmi toutes les autres. Elle l'a eu si longtemps à sa disposition là-bas à Héron. Elle est là parmi 4 ou 5 de grandeur à peu près égale, et d'autres plus petites d'un travail plus raffiné. Mais certainement, à moins de la chercher justement ce jour-là, événement bien problématique, Jacques ne s'apercevra point que cette clé lui manque. Fanny la détache si délicatement, en évitant le tintinabulement que le dormeur à côté ne s'éveillera pas. Il dort toujours avec une si belle conscience. La porte est entr'ouverte. Fanny allonge la tête, gracieuse. Elle a la précieuse clé dans sa longue dentelle de manche. Elle écoute. Quelle admirable respiration régulière! Quel rythme apaisé et apaisant! Ce souffle tranquille ne sera-t-il point une leçon pour la curieuse Fanny? Ne l'invitera-t-il point à remettre la clé à sa place? Non, elle veut savoir ce qu'il a fait de la malle. Mais tout à coup, elle pense que cette clé ne lui suffit point, qu'il lui faut encore l'autre, celle du garage, qui est en bas, dans le tiroir du bureau fermé à clé. Alors elle s'affole, elle n'en sortira pas avec toutes ses clés, car Jacques va s'éveiller certainement, et les domestiques doivent être déjà descendus, mais ils sont encore au sous-sol. Cependant, elle peut agir rapidement, entrer dans le cabinet, n'être point aperçue, et puis après tout, elle a bien le droit d'aller dans le cabinet de travail de son mari. Elle a repris le trousseau sur l'étagère, et la voilà maintenant haletante sur le palier du grand escalier. Elle n'entend aucun bruit. Elle descend en courant. La voilà dans le cabinet de travail obscur. Elle va à tâtons au bureau. Elle l'ouvre. Oh, le tiroir, la clé du garage. Mais l'énorme clé, où est-elle? Mon Dieu, où l'a-t-il mise? Dans cet autre tiroir, peut-être? Oui, elle la sent sous ses doigts. La voilà. Elle referme à clé le bureau. Elle sort du cabinet. Personne. Elle remonte. On entend les domestiques qui ouvrent les volets de la salle à manger. Enfin, elle ne rencontre personne. La voilà à nouveau dans le cabinet de toilette de son mari qui dort toujours. Elle dépose le trousseau sur l'étagère, à côté du porte-cigarette, du briquet et de la montre, et puis elle s'enfuit comme une voleuse, court se jeter dans son lit avec les deux clés de la science du bien et du mal. Chapitre 14. La cave. Ce jour-là était un dimanche. Il y eut une grande tournée de lynx au bord de Sénart. Fanny s'arrangea pour n'être point de la partie et vers 3 heures de l'après-midi pénétra dans l'usine qui était à peu près abandonnée ce jour-là. La cour où s'élevait le bâtiment qu'ils avaient autrefois habité, au-dessus du garage, était fort retirée et la jeune femme n'avait à craindre aucun regard indiscret. Du reste, on ne pouvait guère s'étonner qu'elle pénétrât dans ce garage où avaient été entassés des objets dont le besoin pouvait à nouveau se faire sentir. Ce n'est pas sans une certaine émotion que la châtelaine de la Roseraie considéra un instant les fenêtres de l'appartement où pendant 3 ans, Jacques et elle avaient vécu si modestement, traités comme de simples contremaîtres par le frère aîné. Elle n'avait point revu ces lieux depuis qu'ils en étaient partis. Son orgueil y avait trop souffert. Elle poussa un soupir de détresse à l'idée qu'elle avait pu consentir à s'enfermer entre ses murs pendant 3 longues années, sa jeunesse et sa flamboyante beauté, et courageusement, elle s'approcha de la porte du garage, introduisit dans la serrure l'énorme clé, fit un effort qui meurtrit ses mains délicates et enfin, avec un grincement, la porte céda. Vivement, elle se glissa dans le hangar et repoussa le lourd battant. Elle fut entièrement dans le noir. Elle avait prévu le cas et tira de son sac une bougie et une boîte d'allumettes. Les gestes étaient sûrs, un peu saccadés, mais braves. Et la lumière fut. Autour d'elle, c'était un véritable capharnaüm. Des caisses, des malles, des paniers, de vieux meubles, des fauteuils à 3 pattes, de grands vases ébréchés surgissaient tour à tour de l'obscurité à la lueur vacillante de la flamme qu'elle promenait d'une main qui tremblait à peine. À travers tout cet encombrement, elle se dirigeait vers le fond à droite, tournant autour des choses quand il était nécessaire, les écartant au besoin, les reconnaissant au passage. Ainsi revit-elle le pauvre ameublement de noyer de leur salle à manger, et du même coup le morne désespoir où Jacques la trouvait plongée le soir, quand il rentrait du travail, et qu'elle l'attendait les 2 coudes sur la table, sa pâle figure hostile entre ses 2 mains frémissantes. Elle ne répondait point à ses questions. Elle daignait parfois lever sur lui son regard, un regard qui en disait long sur le dédain qu'une jolie petite femme aux admirables cheveux rouges peut nourrir dans son cœur pour un mari qui laisse moisir un pareil chef-d'œuvre au fond d'une cour d'usine de manchons à incandescence. Ah, le lugubre et poussiéreux passé, était-il vraiment parti pour toujours? Était-il remisé à jamais? Était-il enterré plus bas, si bas dans la terre qu'elle ne le reverrait plus réapparaître jamais, jamais? Jacques lui disait bien que maintenant ils étaient riches. Allons donc, elle savait bien le contraire. Il avait dépensé tout ce qui lui revenait dans les bénéfices depuis 5 ans. Et elle se doutait bien de certaines choses. Enfin, il avait agi en maître, en maître. Quelle imprudence, n'est-ce pas, quand le vrai maître peut revenir d'un moment à l'autre. Maintenant, la voilà devant la petite porte de la cave. Elle s'est bien promis de ne pas avoir peur. Et elle vient d'ouvrir la petite porte de la cave et elle a peur. Oui, cet escalier étroit, humide, glacé, lui fait peur. Et l'odeur horriblement fade qui monte de ce trou la fait hésiter. Oh, un instant, là! Fanny est une femme qui a plus de courage encore que de peur et aussi plus de curiosité. Elle descend quelques marches. C'est la première fois qu'elle descend dans cette cave. Oh, certes, elle n'était pas une excellente ménagère. Elle n'a jamais eu la prétention de passer pour une excellente ménagère, même dans le temps où il eût été bien naturel qu'elle s'occupât de sa cave. Mais la cave était le domaine de Jacques, le domaine qu'il a si jalousement gardé depuis. L'escalier tourne, tourne. Est-ce que la tête de Fanny ne tourne pas un peu, elle aussi? Il lui semble qu'elle descend dans un tombeau. Et qu'est-ce donc qu'elle vient chercher ici, si ce n'est un tombeau? Possible, mais elle se heurte à des barriques. La bougie projette des lueurs fantastiques sur ces énormes choses. Elle a l'audace néanmoins de se pencher sur certaines d'entre elles qui n'ont point de forme de barrique mais de caisse, presque de malle. Est-ce qu'elle croit vraiment qu'elle va retrouver la malle abandonnée entre une barrique et une caisse? Mais alors qu'est-ce qu'elle est venue faire là? Oui, qu'est-ce qu'elle est venue faire là? Tout à coup, ayant dépassé un mur, elle entre dans la lueur blême. Ici, on voit presque clair. À cause de ce carré de jour blafard qui entre par le soupirail, et elle souffle sa bougie, craignant que de l'extérieur. Justement, il lui a semblé qu'une ombre avait glissé le long du soupirail. Elle reste quelques instants, immobile, inquiète, regrettant d'être venue, trouvant sa conduite imprudente ou stupide. Mais ses yeux, peu à peu, se sont faits à la pénombre. Ses yeux voient assez distinctement les murs au carré de maçonnerie dans lesquels s'alignent les bouteilles selon les années, selon les vins. Jacques a toujours eu de l'ordre. Maintenant, elle regarde le sol, ses yeux se fixent sur le sol comme s'il ne pouvait pas s'en détacher. Il y a, sur le sol de terre battue, une sorte de renflement là-bas qui ne lui paraît guère naturel. Si c'était vraiment cela, est-ce qu'il aurait l'imprudence de ne rien mettre dessus? Oui, certainement, là où la chose se trouve, il a dû mettre des caisses dessus. Peut-être là-bas, dans le coin, cet empilement de barriques vides et de vieilles caisses à charbon? Elle ne va pas remuer tout ça, n'est-ce pas? C'est à peine si elle ose remuer elle-même. Allons, allons, pourquoi est-elle venue? Et soudain, elle pousse un cri terrible. Elle a entendu remuer derrière elle. Elle se retourne avec horreur. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est Jacques qui follement lui étreint les mains, lui brise les poignets et qui répète avec rage, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Jacques, Jacques, supplie-t-elle. Mais l'autre continue, farouche, lui brûlant la figure de son souffle qui halète. Tu es venu pour le voir, dit petite curieuse. Et il ricane atrocement. Sa fureur le transporte. Fanny a soudain la terreur qu'il la tue là, dans la nuit de cette cave, et qu'il jette son cadavre à côté de l'autre. Mon Jacques, mon Jacques! Il ne l'entend pas. Il continue dans son accès de démence. Tu pouvais pas te passer de le voir, hein? Ça a été plus fort que toi. J'ai vu naître ton désir dans tes yeux. Me prends-tu pour un aveugle ou pour un idiot? Depuis que la folie a prononcé ce mot automobile, l'autre soir j'ai suivi, j'ai deviné toutes tes pensées, je savais que tu voudrais voir, voir, voir où est passée la malle. Il n'y a que toi qui avais reconnu la malle, et tu aurais pu l'oublier. Mais tu ne sais pas oublier, pauvre insensé, pas plus que tu n'as su résister au désir de venir la voir. « Eh bien, tiens, tiens, ajouta-t-il en la lâchant tout à coup, tu vas être satisfaite. »« Mais qu'est-ce que tu fais, Jacques, qu'est-ce que tu fais ?»« Je vais te la montrer, la malle. »« Oh, tais-toi, oh, tais-toi. »« Et après, tu me ficheras la paix, hein ? Tu ne reviendras plus ici. »« Bon, Jacques, je t'en supplie, tu vas la voir, je te dis. » Et le voilà qui, dans un coin, saisit une pioche qu'il dresse d'un geste terrible au-dessus de sa tête. Fanny, au comble de l'horreur, tombe à genoux, car en vérité on ne saurait dire si cet homme va frapper cette femme ou frapper la terre. Soudain, la pioche retombe. Jacques saisit le bras de Fanny. « Silence !» ordonne-t-il. « Des pas dans la cour !» En effet, des pas qui se traînent approchent, glissent et là contre le mur. Ils passent, chaussés de galoches, devant le soupirail. Ils s'éloignent, ils s'arrêtent, et puis il leur semble qu'ils entrent dans le garage. Jacques commande à Fanny, plus forte que vive, « Reste ici !» Et il s'avance à tâtons vers l'escalier. Tout à coup, au haut de l'escalier, on crie « Qui est là ?» Et Jacques répond « C'est moi, mon brave Ferrand, je suis venu chercher quelques bouteilles. »« Ah, bien, monsieur, » répond la voix du gardien là-haut. « Ça m'étonnait aussi que la porte du garage, qui est toujours fermée à clé, vous n'avez pas besoin que je vous aide, monsieur ?» « Non, 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 mon ami, continuez votre ronde. À votre service, monsieur. » Et l'homme s'en alla. Quand le bruit de ses pas eut traversé la cour, Jacques dit à Fanny, « Tu vois à quoi tu nous exposes. Tu n'avais même pas fermé la porte derrière toi, et tu avais emporté la clé avec toi, et cette porte ne ferme bien qu'à clé. Il serait venu 10 minutes plus tard. » J'aurais pu lui montrer à lui aussi ce que tu désires t'en voir. Elle n'a de force que pour râler. Allons-nous-en, allons-nous-en. Attendons que nous soyons sûrement délivrés de sa présence. Inutile qu'il nous voie sortir tous les deux d'ici. Et ils restèrent encore quelques minutes sans plus se dire un mot dans cette cave tombeau. On entendait les dents de Fanny qui s'entrechoquaient. Enfin, il dit, Viens maintenant, prends ma main, si tu veux encore prendre ma main. » Elle ne répondit pas à cela. Elle dit, « J'ai apporté une bougie. Eh bien, allume, pourquoi l'as-tu soufflé? Tu trouves naturel que l'on descende sans lumière dans une cave ?» Elle ne répondit pas, essaya d'allumer, mais il y mettait trop de temps. Il lui prit brusquement la bougie des mains et il marcha devant. Elle suivit terrifiée. Quand ils furent sortis du hangar et qu'il eut fort tranquillement et fort posément fermé la porte, il la regarda. « Je ne puis vous ramener au château, » dit-il avec une figure pareille. « Montons un instant là-haut. Ça nous rappellera le bon temps. » Et il la poussa dans le couloir sombre qui conduisait à l'appartement abandonné du premier. Elle n'y pénétra point sans frisson. L'homme savait bien ce qu'il faisait en ramenant dans ce cadre lugubre cette femme qui ne pouvait se passer de luxe. Dans cette pièce qui avait été la salle à manger, dont les papiers décollés pendaient lamentablement au mur, on avait laissé une table en bois blanc et quelques chaises de paille. Il la pria de s'asseoir et lui demanda la permission d'allumer une cigarette. Il en tira quelques bouffées, regarda un instant au dehors, puis vint s'asseoir, la face dure, devant la table. Il essayait de la dévisager, mais elle était allée s'affaler dans un coin d'ombre, et elle ne bougeait pas plus qu'une morte. Chapitre 15. Le récit de Caïn. Alors il parla. « Mais c'est pour vous que je l'ai tué !» Et il attendit. Mais elle n'eut pas une protestation. Elle n'avait même pas tressailli, fait un geste. Sans doute, elle aussi, elle attendait. Alors il reprit. « J'aurais voulu que vous l'ignoriez toujours, pour vous éviter l'ennui de ces tristes pensées qui viennent par instants assaillir un assassin. » Et il ajouta d'une voix très sèche, « Car elles viennent !» Il jeta nerveusement sa cigarette. Nouveau silence. Puis, voici comment les choses se sont passées. Vous aviez dû remarquer qu'André, au moment de monter avec moi en automobile, était infiniment plus calme que lorsqu'il était venu nous trouver après le dîner. Et vous allez voir pourquoi. Il pensait déjà à ne plus partir. Nous n'étions pas arrivés à Paris qu'il était décidé à rester. « Pourvu qu'on me croie parti, me dit-il, c'est tout ce qu'il me faut. J'ai réfléchi. Je vais faire le simulacre du départ, mais je reviendrai sans que l'on en sache rien. » Et quand j'aurai fait ce que je dois faire, je me moque de tout. Et il ajouta, je saurais bien me défendre tout seul. Tu es donc menacé, lui demandai-je. Il me répondit évasivement, moi, je m'en fiche. Et il ajouta immédiatement, pardonne-moi de te parler par énigme et n'essaie pas de comprendre. Au fond, c'est très simple. Mais le secret ne m'appartient pas. Je n'insistais pas, je pensais à quelque histoire de femme. Je vous avoue que dans le moment, je ne soupçonnais point une seconde que ce fût pour cette petite Marthe qu'il avait consenti à s'expatrier d'une façon aussi brutale. Ce n'est que plus tard que l'idée m'en vint. Enfin, ce que nous savons aujourd'hui éclaire tout à fait les paroles d'André. En somme, il revenait pour la sauver, elle, des griffes de son mari, et dès qu'il aurait réussi à la mettre à l'abri, il se moquerait de ce que pourrait faire le Saint-Firmin. Mais tout ceci ne m'occupait guère, et je ne voyais qu'une chose, moi, c'est qu'il ne partait pas. et que dans quelques semaines, au plus, l'ancienne vie allait reprendre pour tout le monde à Héron et au château. Oh, cette vie-là, vous l'avez connue, moi aussi. Les murs de cette salle pourraient en dire long. Vous commenciez à ne plus m'aimer, Fanny, et moi, je vous aimais toujours. Il respira, attendit encore, mais Fanny resta muette. Alors, nous n'allons plus à Paris, demandai-je brutalement à André, comprimant à grand-peine la rage qui bouillonnait en moi. Mais si, me répondit-il. Dans le programme, rien apparemment n'est changé. Nous allons à Paris. Je passe prendre quelques papiers dans mon appartement de la rue d'Assas, et tu me conduis à la gare du Quai d'Orsay, où je prends mon billet pour Bordeaux. Nous nous disons ostensiblement adieu, je monte dans le train, tu remontes dans ton auto et tu viens m'attendre à la gare d'Austerlitz. C'est simple. Très simple, fis-je, mais la malle. Ah, c'est vrai, la malle. Diable, je n'avais pas pensé à la malle. Eh bien, écoute, on ne voit pas la malle sous sa bâche. À cette heure matinale, aucun facteur ne se précipitera pour la faire enregistrer. Du reste, je descendrai rapidement, comme si je n'avais d'autre bagage que le sac que je porte à la main. « C'est comme tu voudras, » fis-je. « Ça n'a aucune importance, la malle, » ajouta-t-il encore. « L'important est que l'on me croit parti, moi, voilà tout, et que, pendant quelque temps, je ne me montre pas. » Il resta là-dessus, plongé quelques instants dans ses réflexions, puis il se mit à me parler des affaires de l'usine, mais je ne l'écoutais plus. Nous arrivâmes à Paris et suivîmes le programme qu'il avait tracé de point en point. Après l'avoir quitté sur le quai de la gare d'Orsay, j'allais l'attendre à la gare d'Austerlitz. Je ne pensais plus... J'agissais mécaniquement, j'étais abruti. Je le vis bientôt apparaître. Il vint se placer à côté de moi et nous voilà repartis dans le petit jour commençant. Il me fit faire un détour immense. Nous nous trouvâmes dans la forêt. Je devais le laisser non loin de Ris-Orangis. De plus en plus, j'étais atterré, mais vraiment anéanti. Je me demandais comment je ferais pour vous annoncer la chose en rentrant. Je vous voyais, enfin, je vous entendais, je vous devinais, je savais que s'il n'y avait pas eu le petit Jacques, vous seriez parti depuis longtemps. Et André ne me parlait plus que de ses affaires, m'entretenait des commandes qui étaient arrivées la veille, de certaines circulaires à expédier aux succursales de province. J'étais déjà redevenu l'employé. Il ne s'agissait plus de me mettre à la tête de l'usine. Enfin, il me dit « Gardez en ce moment votre appartement de Héron. Je crois que tout finira par s'arranger. J'ai eu tort de m'affoler. » Bref, tout s'écroulait autour de moi, et je conduisais la voiture à une allure vertigineuse, comme si j'eusse voulu créer une catastrophe qui, celle-là, eût tout terminé. Une haine soudaine, terrible, montait en moi contre cet homme qui ne se doutait point du désespoir où son irrésolution m'avait réduit. « Mais tu vas nous tuer !» s'écria-t-il tout à coup, en s'apercevant enfin de la marche insensée de la voiture, et il me mit la main sur le bras, car un tronc d'arbre encombrait le chemin. Pour l'éviter, je donnai un coup brusque au volant. Nous fîmes une embardée effrayante, je rétablis cependant l'équilibre, mais au même instant, un pneu crevait. Il jura, et nous nous mîmes hâtivement à la besogne. Quand je me relevais, André était encore à genoux sur la route, la tête penchée sur l'essieu, considérant de près la roue amovible. J'avais à la main, moi, la lourde manivelle dont on se sert dans ces occasions. Que s'est-il passé en moi? Je pensais à vous. Je ne pensais pas à tuer cet homme, du moins. Je n'y pensais pas une seconde auparavant. Oh, ce fut plus fort que moi. Je frappai à la tempe un coup terrible. Vous entendez? À la tempe. Et vous pouvez mesurer l'émotion dont je fus saisi en entendant l'autre soir cette folle de Marthe parler de la blessure à la tempe de son fantôme. Une blessure qui saignait toujours depuis 5 ans. C'est ce qui me rassura, et je songeais avec sang-froid que dans toutes les histoires d'imagination, dans les contes populaires comme certainement dans la propre imagination de cette malheureuse, les assassinés apparaissent plus facilement frappés à la tempe. C'est la blessure classique, surtout si elle doit continuer à saigner pendant des années sur la figure d'un fantôme, qui traîne derrière lui en marchant un bruit de chaîne. Cette Marthe avec toutes ses stupidités ne sera jamais, il faut l'espérer, comme elle a fait bondir mon cœur. Et puis l'histoire de l'automobile, ah, celle-là. Vous me pardonnez maintenant, Fanny, d'avoir dépareillé le service de Bohème. Alors, carrément, j'ai cru qu'elle me soupçonnait, que c'était pour moi qu'elle parlait, et carrément, j'en ai pris mon parti. J'en étais assez brave pour dire ce que j'en pensais au docteur, qui depuis m'a rassuré. Marthe croit à l'assassinat d'André par son mari. Ça me soulage, certes, mais entre nous, je préférerais qu'elle ne crût pas à l'assassinat du tout. Car c'est affreux, entendez-vous, Fanny, c'est affreux d'entendre tout le temps parler de l'assassinat d'un homme que l'on a tué. Et pourtant, je ne suis point pusillanime. Si peu pusillanime, vous allez voir. Donc, j'avais tué mon frère. Je voyais son corps étendu à mes pieds sur la route. Le sang coulait de sa blessure, j'avais horreur de ce que j'avais fait. Mais c'était fait, et maintenant il fallait que ce fût bien fait. Vous avez pu juger plusieurs fois que je suis un homme de décision. J'eus le courage de constater froidement, l'oreille sur la poitrine, que mon frère était bien mort. Qu'est-ce que j'allais faire du cadavre? Où allais-je le transporter? D'abord, je le tirais dans un taillis près de l'auto. Ainsi, il était caché de ceux qui pourraient passer dans l'instant sur la route. Il fallait faire vite. J'eus l'idée de le porter dans l'auto et d'aller le jeter fortement lesté pour qu'il ne remontât pas en scène. Dans ce but, je lui bandais fortement le front avec un mouchoir à cause du sang et rabaissais la casquette sur la blessure. En somme, le crâne fracassé laisserait échapper peu de sang, mais vous comprenez, j'avais peur des taches. Cela fait, je le tirai jusqu'à l'auto. Mais où le mettre? Tout à coup, l'idée de la malle surgit en moi comme une flamme. Il y avait là une malle qui, logiquement, devait disparaître avec son propriétaire. Eh bien, il fallait mettre le cadavre dans la malle et faire disparaître la malle. La malle était fermée à clé. Je fouillai André, lui pris ses clés, j'ouvris la malle. Celle-ci était pleine. Oh, je la vidai à moitié de ses vêtements et de son linge que je portais à l'intérieur de l'auto et sur lequel je jetais une couverture. J'introduisis le corps dans la malle avec une adresse et une force dont je ne me serais pas cru capable. Je voulais profiter des derniers voiles de la matinée, des brumes qui heureusement enveloppaient ma sinistre besogne. Quand je l'eus caché dans la malle, je rabattis le couvercle et refermai la malle à clé pour toujours. Puis je rabattis la bâche sur le tout, après quoi j'examinai minutieusement mes vêtements et l'auto, et fit disparaître quelques traces de sang qui se trouvaient sur la manivelle, et je repris ma place au volant. J'étais déjà plus tranquille, plus calme. J'avais du temps pour songer à ce que j'allais faire du cadavre, car déjà j'avais repoussé l'idée du plongeon en scène comme devant donner un résultat trop aléatoire. Il fallait enfouir cette balle dans un endroit où personne n'irait chercher. Et tout à coup, j'ai pensé à ma cave dans laquelle personne ne descendait jamais que moi. Dès lors, tout m'apparut avec une simplicité triomphante. J'arriverais avec l'auto. Si le chauffeur était au garage, je le prierais d'aller me faire une course urgente. Je m'occuperai seul de la voiture, je monterai rapidement chercher la clé de la cave et je redescendrai au garage. Je tirerai la malle à moi et la traînerai jusque dans la cave ainsi que les effets supplémentaires. Là, garé de toute surprise, j'avais tout loisir de venir enterrer mon mort et son linge aux heures que je jugerais les plus propices. Quand cette imagination que je réalisais ensuite exactement se fut déroulée dans tous les détails dans mon cerveau en feu, je devins calme, extrêmement calme, comme un instant auparavant j'avais été accablé par l'horreur de mon crime. C'était fini, André était parti, et il ne reviendrait plus. Et toi, 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 car c'est pour toi, Fanny, pour toi. Alors pourquoi ne me réponds pas? Pourquoi restes-tu dans ton coin d'ombre comme une pierre? Tu sais tout, mais parle-moi, récompense-moi. J'en ai besoin, tu sais. Car je te jure qu'il y a des jours où il me faut chasser le souvenir à grands coups de joie ou coups de travail, comme on chasse une bête dangereuse à coups de fouet, pour n'en être pas dévoré. Cela s'appelle le remords, mon ami. Elle était devant lui et lui tendait ses lèvres. Il l'embrassa à l'étouffer. Elle demandait grâce. « prenez garde, darling, vous me dévorez comme le remords. Je vous aimerais encore un peu plus, oui, vraiment encore un peu plus, si vous aviez moins de remords. Mais allons-nous-en. Sauvons-nous, mon ami, loin de cette maison, de cet appartement. Avez-vous vu dans le garage l'horrible chose ? Horrible en vérité. Quoi donc ? Demanda-t-il stupéfait. Ben, je veux parler, vous savez bien, darling, de ce mobilier, de salle à manger en noyer ciré. Chapitre 16. La petite maison du bord de l'eau. Le lendemain, vers la fin de l'après-midi, Monsieur et Madame de la Bossière s'en furent vers la petite maison du bord de l'eau. Fanny avait promis une visite à Marthe et Jacques, avait jugé charitable et peut-être utile d'accompagner sa femme. Certes, il se fut très bien passé des imaginations de la malade, mais du moment qu'elle visait catégoriquement le vieux Saint-Firmin, il n'eût guère été politique de les négliger. Depuis le matin, il tombait une petite pluie fine qui avait fini par cacher tout à fait le soleil. L'automne avait pâli les feuillages des bouleaux, qui, dévalant la forêt, venait presque jusqu'à la lisière du fleuve faire une ceinture d'argent à la petite maison du bord de l'eau. Le tout était assez mélancolique, particulièrement quand on arrivait par la berge, car il y avait là, au coin de la villa, devant le chemin de halage, tout un petit bocage de tremble de haute futaie. Jacques dit qu'il n'aimait point le tremble parce que c'était un arbre triste, toujours grelottant au moindre souffle et balançant ses hautes feuilles rondes comme dans une éternelle lamentation. Fanny s'étonna que son mari eût de pareilles pensées sur les arbres. Elle ne l'eût jamais cru aussi poétiquement impressionnable. Elle garda cette réflexion pour elle, cependant. Elle découvrait son mari depuis 24 heures. Jusqu'alors, elle ne le connaissait pas. Ils étaient venus à pied, malgré la bruine, ayant revêtu caoutchouc et pèlerine, dans le désir d'une promenade à deux à travers champs. Depuis la veille, ils ne se quittaient point. Il ne leur fallut pas plus de 20 minutes pour arriver à la villa. C'était une petite maison carrée à 2 étages, aux murs pâles et nus, aux fenêtres presque toujours closes de volets gris. Un toit d'ardoise, pas de corniche, pas de balcon, pas d'ornement. Un haut mur entourait un jardin qui prolongeait la propriété jusqu'au chemin de halage sur lequel pouvait ouvrir une petite porte que l'on voyait toujours fermée. De ce côté, les piliers vermoulus et le toit pointu d'un kiosque vétuste dépassaient le mur. Jacques sonna à la porte de la maison. Une vieille servante vint leur ouvrir et, les reconnaissant, leur dit « Oh, madame sera bien heureuse de voir monsieur et madame. » « Elle n'est point malade ?» demanda Fanny. « Oh, on peut dire qu'elle est fatiguée. » Et cependant, elle ne remue guère, fit la servante, après les avoir débarrassés de leur caoutchouc et les introduisant dans un salon qui sentait le renfermer. Ils s'assirent. Il y avait là du velours d'Utrecht, comme il devait y avoir du repas, du reps dans les chambres. Devant chaque fauteuil, un petit coussin rouge en forme de galette attendait les pieds des dames en visite. Sur la cheminée, sous 3 globes, une pendule de marbre noir et 2 chandeliers d'argent. Sur la pendule, un motif en bronze représentant un guerrier romain. De petits ronds de dentelle sur les meubles. Dans une vitrine, une grande quantité d'objets d'ivoire et d'écailles et un œuf d'autruche. Oh, ce qu'on doit s'amuser ici, fit Jacques entre ses dents. « Surtout, répliqua Fanny, quand on a rêvé de devenir châtaigne de la roseraie. »« C'est vrai, murmura Jacques, il n'en faut pas davantage pour troubler la plus solide cervelle. » Ils se turent, car ils entendaient le frôlement d'une robe dans le corridor, et la porte s'ouvrit. C'était Marthe. Elle était de plus en plus spectrale. Avec son peignoir blanc qui flottait autour de ses membres grêles, et sa figure de cire et ses grands yeux noirs qui brillaient d'un feu de plus en plus inquiétant. Finalement et vivement, elle leur tendit ses 2 mains. « Oh, que je suis contente, contente de vous voir. Si vous n'étiez pas venue, je n'aurais pas pu attendre à demain pour venir chez vous. Je me serais encore échappée, car vous êtes des amis, n'est-ce pas ? Le docteur Moutier me l'a dit. Et puis, monsieur Jacques, il faut... Chut, attendez. » Elle alla écouter près de la porte, puis revint près d'eux, un doigt sur ses lèvres exsangues. Méfions-nous de la vieille servante. Mais je pourrais maintenant toujours sortir quand je voudrais. Car j'ai découvert ce matin que la clé du cellier ouvrait la serrure de la petite porte du jardin. Comme cela, je ne serai pas obligé de rester dans le kiosque la nuit, pendant mon temps à lui tendre les bras quand il vient. Vous comprenez, j'irai le rejoindre, et il pourra me serrer dans ses bras et peut-être m'emporter avec lui chez les morts. Oh, je voudrais tant être morte maintenant qu'il est mort. Oh, j'espère bien que je n'en ai plus pour longtemps. Ah, je vous disais donc, monsieur Jacques, et certainement madame de la Beaussière sera de mon avis, il faut que vous vengiez votre frère. L'assassin de votre frère ne peut pas continuer ainsi à se promener parmi les hommes sans que vous vous en occupiez un peu. Songez que je déjeune, que je dîne tous les jours avec lui, moi. Je ne suis soutenu que par l'espoir, la certitude d'arriver à le confondre. C'est la prière que j'adresse à Dieu tous les soirs. Et la nuit, Dieu m'envoie André pour me donner des renseignements nécessaires. Des renseignements, monsieur Jacques, qui feront que nous saurons tout, tout. Et cela bientôt. Déjà, cette nuit, il est revenu. Chut, chut. J'entends la vieille servante qui rôde dans le couloir. Il faut se méfier de la vieille servante. Elle est peut-être complice. Tout est possible. Elle écoute aux portes. Elle alla entr'ouvrir la porte et dit tout haut, avec une affectation de civilité qu'elle croyait naturelle, « Oh, la pluie a cessé. Venez donc faire un tour. » Sur le seuil du jardin, ils rencontrèrent la vieille servante qui avait une bonne figure. Cette Nathalie avait servi la première femme de monsieur de Saint-Firmin et n'avait jamais martyrisé la seconde. Elle paraissait tout à fait insignifiante et surtout préoccupée de sa lessive qu'elle achevait dans le cellier. Cependant, elle connaissait son monde car elle demanda si ces messieurs et dames voulaient qu'elle leur servît quelque chose. « Rien, rien !» s'écria vivement Marthe. « N'acceptez rien, les biscuits sont moisis. Oh, »« oh, oh, vous ne direz pas, Nathalie, que les biscuits ne sont pas moisis !» Nathalie, derrière elle, haussa les épaules avec douleur et pitié. Elle se frappa le front en murmurant « Oh, la pauvre dame, la pauvre dame !» Et Marthe entraînait les autres dans le jardin. « Sans compter, continua-t-elle, qui peuvent être empoisonnés, est-ce qu'on sait jamais ? Moi, j'en mange, je mange tout ce qu'ils m'offrent dans l'espoir de mourir, n'est-ce pas ? Mais vous, ça n'est pas la même chose. » Il la suivait. Elle avait mis ses petits pieds dans de grosses galoches, et ils s'en furent ainsi tous trois par l'allée du milieu, bordée de buis, d'arbres fruitiers, si vieux que l'écorce blanche en tombait toute seule. Dieu, que ce jardin était triste. La pluie avait cessé, mais de toutes ces pauvres branches tordues et de ces dernières feuilles, le jardin pleurait goutte à goutte, sa jeunesse à jamais enfuie, et que personne n'avait songé à renouveler. Marthe avait jeté un fichu sur ses épaules et s'en enveloppait frileusement, en attendant que les deux visiteurs l'eussent rejointe. Monsieur et madame de la Beaussière comprirent bientôt où elle les conduisait. Ils apercevaient à l'extrémité d'une double rangée de tilleuls, sur la gauche, le fameux kiosque où Marthe venait passer une partie de ses nuits. C'était une petite boîte rustique, toute moussue, et dont le toit pointu avait d'épaisses garnitures de lierre, relevées en panache comme un chapeau démodé. Les marches par lesquelles on accédait à la plateforme étaient moisies, s'effritaient de vieillesse et d'humidité. Une rampe de bois vermoulu qui fléchissait sous la main bord de l'escalier. Marthe semblait impatiente. Quand ils furent tous trois dans le kiosque, elle dit tout de suite « Nous serons bien là pour ce que j'ai à vous dire. On ne nous entendra pas et de cet endroit nous pourrons voir tout ce qui se passe. Tenez, ajouta-t-elle brusquement en étendant le bras, c'est là qu'il vient. » Par-dessus le mur, on apercevait devant soi, dans le crépuscule humide qui jetait déjà son voile sur la pâle coulée du fleuve, un chétif bouquet de saule, au pied duquel était attachée une vieille nacelle. Sur ce coin désolé de la rive pesait encore l'ombre proche et gémissante du petit bois de Tremble. Oh, que c'est triste ici, ne peut s'empêcher de dire Madame de la Boissière. Oui, mais si vous saviez comme c'est beau, clair de lune, quand il vient flotter sur les eaux comme Jésus, il marche sur les eaux, je vous assure, et cela lui paraît si naturel. Il aborde au rivage. Mais ma petite île doit venir sur ce vieux bachot, exprima Jacques, et le bruit des chaînes que vous entendez, c'est le bruit de la chaîne du bachot, quand il l'attache au pied des saules. Mais laisse donc Madame Saint-Firmin parler. Tu penses bien que si c'était aussi simple que ça, Madame Saint-Firmin s'en serait déjà bien aperçue. Oh, vous avez absolument raison, madame. Je ne suis ni aveugle, ni sourde, ni folle, quoi qu'en dise mon mari. Vers quelle heure vient-il ? Demanda Fanny. Oh, ordinairement vers 4 heures du matin, madame. Mais je me tiens prête à n'importe quelle heure. Et je ne me lasse pas de l'attendre, maintenant que je sais qu'il vient ou qu'il peut venir, parce qu'il ne peut venir évidemment toutes les nuits. Mais qu'est-ce que je vous disais donc ? Ah, après avoir abordé à cet endroit, généralement parce que quelquefois il apparaît sans que l'on sache d'où il vient, simplement en se rendant visible tout d'un coup. Il vient en me tendant les bras en silence. En silence, on n'entend pas le bruit de ses pas, on n'entend que le petit bruit de chaîne dont s'accompagnent toujours, paraît-il, les pas des fantômes qui sont les captifs de la mort. Ma pauvre enfant, m'interrompit encore Jacques, où avez-vous lu tout ça? Où avez-vous rêvé tout ça? Mais laisse donc, je t'en prie, Jacques, fit encore Fanny avec humeur. Oui, j'ai pu croire que je rêvais. Mais maintenant je suis sûr qu'il vient, qu'il m'attend, qu'il m'aime toujours, assura Marthe avec d'angéliques hochements de tête. Elle est bien à plaindre, la pauvre chère âme, avec sa blessure rouge à la tempe. C'est évidemment sur moi qu'elle compte pour la venger, mais je suis si faible, que je n'y arriverai jamais si vous ne m'y aidez pas. » Elle leur prit une main, tous les deux, et la leur serra avec une force nerveuse dont ils l'eussent cru incapable. « Dites-moi que vous m'aiderez, et je vous dirai ce qu'il m'a dit cette nuit. » « Mais vous savez bien que nous vous aimons beaucoup, ma petite Marthe, » dit Fanny. « Non, ce n'est pas cela que je veux entendre. Dites-moi, je vous aiderai. »« Eh bien, nous vous aiderons. »« Ah, c'est cela, merci. »« Maintenant, je suis plus tranquille. » »« C'est un grand regret qu'il m'a confié là. » et qui va peut-être pouvoir nous aider beaucoup. Il m'a dit si douloureusement, mais si douloureusement, « Marthe, Marthe, Je voudrais reposer en terre sainte. Va chercher mon cadavre. » Alors, je lui ai demandé, « Mais dites-moi, André, où est votre cadavre ?» Et il m'a répondu, « Eh bien, mais il a caché mon cadavre dans la malle. » Et là-dessus, il a disparu comme de la fumée. Qu'est-ce que vous dites de ça? Nous savons maintenant où est son cadavre. Il faudrait savoir où est la malle. Ce sera peut-être très difficile. On a cherché parfois des cadavres dans des malles pendant des mois, des années. Rappelez-vous l'affaire dont nous a tant parlé le docteur Moutier, l'affaire Gouffet, je crois. Enfin, il faudra être bien prudent parce que Saint-Firmin a dû prendre ses précautions. Mais maintenant, descendons vite. Revenons à la maison, car mon mari ne sera plus longtemps à rentrer. Je veux qu'il nous trouve bien sages tous les trois dans le salon. Et nous parlerons de la pluie sans avoir l'air de rien. Mais rentrée dans la petite maison du bord de l'eau, Fanny, en quelques mots, prit congé et ils se sauvèrent. On n'aurait pas pu se servir d'un autre mot. Jacques était incapable de parler. Fanny avait à peine pu tirer une phrase de politesse lors de sa gorge desséchée. C'est elle qui, la première, eut reconquis un peu de sang-froid. « Il faut, dit-elle, savoir ce que tout cela veut dire. On a fini de rire avec cette petite. »« Oh, elle ne m'a jamais fait rire !» exprima Jacques, dont la pâleur effraya Fanny. « Oh, mais toi, lui dit-elle, avant tout, il ne faut pas faire les enfants. » « Mais c'est épouvantable !» murmura Jacques. « Quand elle a dit la chose, j'ai cru que j'allais m'abattre comme une masse. Mais cette petite a des visions. Je finirai par croire que Moutier n'a peut-être pas tout à fait tort de prétendre. « Tais-toi, mais Moutier se moque de nous. Tu ne vas pas devenir aussi fou que Marthe, hein ? André n'est pour rien là-dedans. » Si André réellement lui apparaissait, si André pouvait quelque chose, il nous aurait déjà arraché ses enfants. Oh, il ne s'en occupe même pas. C'est vrai ce que tu dis. Sais-tu ce que je pense? Je pense, moi, qu'elle voit réellement quelqu'un, et pas une ombre, un fantôme, quelqu'un de bien vivant, qui a peut-être, quand je dis peut-être, qui a dû assister à l'affaire, en tout cas. Et elle se penche à son oreille. Qui t'aura vu, dans la forêt, mettre le cadavre dans la malle? Voilà ce que je pense. Quelqu'un qui ne veut pas se compromettre, qui ne veut faire aucune dénonciation, mais qui connaît Marthe, et son caractère mystique, et qui a trouvé ce moyen de la mettre sur la trace. Voilà ce que je crois, et c'est beaucoup plus grave que toutes vos histoires de fantômes. « Oh !» fit Jacques, qui s'arrêta et s'appuya contre un arbre, car il ne pouvait plus marcher. « Si nous en sommes là !» Mais il faut savoir si nous en sommes là. Et dans ce cas, agir. Et agir sans perdre une minute. Fanny le prit sous le bras, l'entraînant, essayant de lui passer un peu de son courage. Mais chez Jacques, la volonté chancelait.